Radio Esperanza.
Oh, une radio variée, musicale.
C'est la radio alternative du festival.
Ça rime avec quoi? Avec chocolat?
Blabla.
La joie.
Radio Esperanza. Va.
Nous sommes au milieu de l'été. Un petit crachin dépose ses gouttelettes sur le gazon fraîchement tondu, comme il en est de coutume en cette saison de l'année. Au loin, le rythme s'active. Des bénévoles préparent le terrain pour la grande procession qui aura lieu le week-end dans ce lieu saint. Située sur un promontoire de la Sambre, cette abbaye du XIIe siècle est un lieu très prisé pour les esprits et les énergies qui y règnent. Ils sont chaque année des milliers à entamer leur longue migration venant de tous azimuts pour atteindre ce point central. Équipés de sarouel, djembé, didgeridoo et autres substances, ils seront en communion spirituelle pendant 3 jours, entre ponts et brisant les murs, à réfléchir ensemble à un avenir meilleur.
Espèce de hippie de merde! Sac à merde, va! Rentre chez toi!
J'ai un peu la pression, Esperanza c'est plus comme avant hein.
Comment, qu'est-ce que tu dis? Esperanza c'est plus comme avant.
Mais en fait là, tu sais quoi, on va en parler tout de suite. Et puis en fait, bah on déclare l'antenne ouverte quoi. Radio Esperanza 2017, et bien l'antenne est ouverte.
Ils cherchent du fric. Tout le monde demande du fric. La police demande du fric, l'école demande du fric, la santé demande du fric, tout le monde demande du fric. Et puis personne veut travailler. Ben alors, on va trouver où, hein? Et puis un jour, il n'y en aura plus d'ailleurs, alors comme ça, il y aura quoi? Je suis une dame d'un âge, 55, bientôt 6, et je suis juste une dame qui a un peu d'argent de son père. Je suis une bourgeoise, hein. C'est la bourgeoisie. Disons que je suis un peu intellectuelle, de ce côté-là, je suis différente des autres. Mais la bourgeoisie, assez ringarde, parce qu'on est quand même des bourgeois depuis longtemps, donc on résiste. On n'a pas encore, on nous a pas encore tout retiré. Mais c'est certain que c'est difficile de garder son argent et que c'est difficile de le mettre à l'abri. Des taxes et des impôts de toutes sortes qu'on vous applique. Donc, moi, ma méthode, c'est de faire des économies. Et je fais des économies et après, j'investis. Et en général, j'investis dans la pierre pour essayer de laisser quelque chose à mes enfants. C'est vrai que la vie est plus facile quand on a un peu d'argent plutôt que de n'avoir pas du tout. Je fais avec ma famille, on essaye de travailler entre soi et de ne pas vendre, galvauder, dépenser. On fait attention de ne pas perdre ce qu'on nous a donné. Acheter parfois quelque chose en plus, mais ce n'est pas fait pour la vie de tous les jours. La vie de tous les jours vient du travail de mon mari. Mon mari me verse une pension, mes enfants gagnent leur vie. Voilà.
Ça, c'est dans le Figaro. Pourquoi faut-il tergiverser sur l'ISF?
Yves de Kerdrel. Oui, c'est la chronique du Yves de Kerdrel. Il est souvent dit que la France a la droite la plus bête du monde. Je ne pense pas que ce soit le cas. Le défaut de la droite française, c'est plutôt de se vouloir, au contraire, intelligente, subtile, voire cérébrale, au point qu'elle finit par en oublier ceux qui l'ont élue et ce pourquoi elle a été élue. Il a raison, cet homme-là. Le débat qui se déroule actuellement autour de la fiscalité du patrimoine est un très bon exemple de cette droite qui se veut réfléchie et qui, à force de discussions byzantines, ne se rappelle pas qu'elle a été portée au pouvoir pour restaurer la valeur du travail et retirer de notre économie toutes les scories idéologiques laissées par quelques gouvernements socialistes. Si la majorité veut procéder très vite à une réforme juste, efficace et dénuée de toute idéologie, il lui faut décréter la suppression pure et simple de l'ISF et du bouclier fiscal. Comment voulez-vous qu'il s'en passe avec tous les gens qu'il faut entretenir à ne pas travailler? Il ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Supprimer l'ISF, c'est faire en sorte que les 800 industriels français qui quittent le pays chaque année et qui ont emporté avec eux hors du territoire pas moins de 200 milliards d'euros recommencent à espérer dans leur pays d'origine et donc décident d'y investir de nouveau. Ça, j'en doute. Supprimer les SF, c'est donc arrêter ce que dit Monsieur Cardral, arrêter cette hémorragie dramatique de fortune et de cerveau qui entraîne chaque année un manque à gagner de 7 à 8 milliards d'euros pour l'État. Car ce que les socialistes ont oublié dans leur schéma idéologique, c'est qu'un riche a peut-être des défauts, mais il a une qualité, c'est de consommer. Ça dépend des riches. Ceux qui... Il y a des riches qui ne consomment pas.
Vous, par exemple, hein, vous consommez peu.
Moi, je ne suis pas consommatrice. Une mauvaise consommatrice. Supprimer l'ISF, ce n'est pas une question d'arithmétique budgétaire, mais un signe de confiance adressé à ceux qui entreprennent, qui osent, qui prennent des risques, qui détiennent des bouts de patrimoine en face. Vous voyez, des bouts de patrimoine en France. C'est ça, la France. C'est des tas de petits propriétaires qui détiennent quelques petites choses, mais qui ne sont pas pour son temps richissimes. Il n'y a pas de richissime en France. Supprimer l'ISF, c'est supprimer en même temps le bouclier fiscal qui n'a jamais été bien compris par une société française, dévoré par la terrible passion de l'égalité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout est vrai là-dedans. Hein. Il a raison, cet homme-là. Supprimer l'ISF, enfin, c'est faire le constat d'échec public d'une idéologie répandue en France depuis 30 ans, selon laquelle tondre les riches permet d'améliorer le sort des pauvres. C'est une idée de fou. Et s'il n'y a plus de riches, il y aura plus de pauvres. Parce que les riches ne peuvent plus entretenir les pauvres. Donc il faut bien les riches pour que les pauvres ne soient moins pauvres. Vous travaillez, votre argent, il va chez les autres. C'est humainement difficile à supporter. Donc vous partez. Vous voulez faire quoi sans l'impôt sur les SF pour entretenir la masse de gens qui ne travaillent pas? Je pense simplement qu'il faut surveiller le travail. Il faut surveiller les gens qui ne travaillent pas. Il y a eu des abus énormes avec les allocations. On cumule les allocations, on se marie deux fois, on recumule les allocations. Le père de famille, il ne travaille plus. Il faut que les gens payent les SF parce que ça leur fait plaisir à ceux qui ne payent pas les SF que d'autres payent les SF. Donc si vous supprimez l'ISF, les gens ne comprendront pas et de toutes les manières, ils seront furieux. Parce que ça, dans leur tête, ça fait que le riche est plus riche. Ce qu'il faut en France, c'est que tout le monde soit pauvre. Il ne faut pas que le riche soit plus riche, il faut que le riche soit plus pauvre, qu'il devienne pauvre et qu'il n'y ait plus que des pauvres.
Arte Radio.com.
Ils vous disent, c'est ce que je pense.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Esperanza. On est ici dans le studio en direct de l'abbaye de Fleuref. Et puis vous avez vu, hein, pour le premier thème de cette édition 2017, on y était franco. Hein, baisse, voire annulation de l'USF, on a besoin des riches pour sauver les pauvres. Hein, Déborah, on est parti bien là.
Eh bien, on commence fort cette édition 2017 de Radio Esperanza. Alors, si vous avez peut-être écouté hier, je crois qu'on en a parlé, je ne sais même plus. Mais en tout cas, c'est un peu la révolution de la grille radio sur Radio Esperanza cette année.
C'est carrément la radio qui se rebelle, même. On en a terminé avec les émissions thématiques sur l'un et les autres sujets. On a décidé de faire un super melting pot de tout ça pour que tout le monde travaille ensemble, qu'un maximum de thèmes soient abordés. Et donc voilà, on va y aller plus en mode thématique, par exemple. On va servir de notre exemple là tout de suite.
C'est le plus simple.
C'est le plus simple, hein, ça paraît logique. On fait donc un thème sur les bulles. Vous pouvez vous imaginer plein de choses, les bulles de savon, les bulles de bière, je sais pas quoi. Sauf que nous, on va parler lutte des classes, entre autres, mais on vous laisse comprendre par vous-même.
Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin.
Alors, ça bulle ?
Ça pousse.
Bulle ? On a des bulles.
Ça pousse.
Bulle, 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 bulle.
Ça mouche, hein.
Radio.esperanza.be.
Nous vivons dans un monde où ceux qui gagnent 100 000 dollars par jour persuadent ceux qui en ont 3 000 que si ça va mal, c'est à cause de ceux qui en gagnent 600 ou qui crèvent dehors. Et ça marche.
Les bulles, ce sont par exemple la bière et le champagne. les deux produits qui retranscrivent à merveille la lutte des classes. Les riches et les pauvres, la bourgeoisie et le prolétariat, dépassaient ces clichés d'une autre époque. Et si le fossé se creusait, Carapils versus Veuve Clicquot, après tout, ça reste de l'alcool et bourré.
On est tous pareils.
Alors, Aurore, as-tu reconnu ce fabuleux générique ?
Alors, c'est là, il faut savoir, est-ce qu'on est honnête ou pas ? Oui, je pense que j'ai reconnu, je pense que c'est le feu de l'amour, je pense que la révolution de Radio Esperanza, elle commence tout de suite, hein, parce que le feu de l'amour sur Radio SP, c'était quand même pas gagné, mais on sait pourquoi on l'a.
Oui, oui, on l'a, évidemment, il y a une raison, parce que bon, faut quand même savoir que les feux de l'amour, c'est une série qui est née il y a très longtemps, mais dès les débuts de la télévision et de la fiction télévisée, ce sont évidemment les riches qui font rêver. Alors on prend évidemment cet exemple-ci. Les Feux de l'amour, c'est quand même... C'est donc une série télé qui, en anglais, s'appelle The Young and the Restless. C'est fabuleux, hein. Et qui a commencé sa diffusion sur CBS en 1973. Donc c'est même plus vieux que moi.
Ça fait genre 44 ans. 44 ans,
ouais. Et ça continue encore toujours.
Et c'est diffusé partout dans le monde.
Là, en début 2017, on en était à plus de 11 000 épisodes. 11 000. Et encore, je n'ai pas mis ce qu'il y avait après les 11 000, parce que c'est vraiment 11 000 et quelques. Et il faut savoir que certains personnages sont toujours là depuis 44 ans et sont joués par les mêmes acteurs.
Donc tu les vois évoluer dans la série. Il y a 44 ans, ils étaient évidemment plus jeunes qu'aujourd'hui. Maintenant, ils sont un peu plus âgés. C'est toujours les mêmes.
L'image, évidemment, type des Feux de l'amour, c'est quand même Victor Newman. Je me demande s'il n'est même pas mort 2-3 fois. Et puis chaque fois, il revient. Mais...
Il ressuscite.
Voilà. Il y a ces personnages récurrents comme ça qui sont là depuis le début, avec les mêmes acteurs. C'est incroyable.
Et si tu ne me quittes pas maintenant ? Tu vas le faire une fois que son bébé sera né, alors pourquoi attendre si c'est inévitable ?
Attends, Chelsea ?
Pourquoi ? D'entendre d'autres raisons qui font que mon ex-mari mort rend notre relation impossible ? Non, merci.
Chelsea, tu as raison. C'est vrai. Tu as raison.
Alors, c'est quoi l'histoire des Feux de l'amour ? C'est l'histoire de familles riches. De jeunes et de moins jeunes cadres dynamiques, éminemment riches, bien entendu. On boit du champagne à toutes les occasions et de la bière uniquement dans les bars, mais dans les bars pas chics, évidemment. C'est les bars de jeunes, tu vois. Là, on peut boire de la bière, mais sinon, on boit du champagne, du vin.
Et là, il n'y a pas Victor Newman quand on boit de la bière, si j'ai bien compris.
Non, je pense. Écoute, je ne suis pas une accro des Feux de l'amour, sauf quand j'étais en examen. C'était bien pour faire une pause. Et donc, il est intéressant aussi de voir un peu la diffusion. En tout cas chez nous, hein, en France et en Belgique, la diffusion des Feux de l'amour, parce que TF1 donc, diffuse les Feux de l'amour depuis 1989. Alors eux, ils ont pris le train en route. C'est fabuleux. Ils ont commencé par l'épisode 3263.
Merci TF1.
Oui, mais c'est marrant, les gens n'ont pas eu le début, ils sont accrochés.
Et la partie d'avant n'avait jamais été diffusée ?
Je pense pas.
Ah ouais.
Et en Belgique aussi, donc, la RTBF diffuse quotidiennement depuis 1989 les Feux de l'amour. Alors même pas à une heure de grande écoute. C'est ça qui est quand même assez fabuleux. C'est que c'est pas en prime time, donc ce qu'on appelle le prime time qui est le début de soirée. Mais là non, c'est pendant l'heure du midi, juste avant ou juste après le JT.
C'est ça. Et peut-être que comme moi, quand tu as fait tes études de journalisme, on t'a expliqué que le temps de midi, c'était un petit peu genre le temps entre guillemets, je mets des parenthèses dans mes doigts, vous ne me voyez pas. Pour les ménagères, donc, les Feux de l'amour, c'est donc hyper ciblé.
Voilà, donc c'est la même chose que Amour, gloire et beauté. Donc c'est les gens qui ne travaillent pas. C'est, comme tu disais, les femmes au foyer. Et donc en gros, des gens qui, en regardant les Feux de l'amour, rêvent d'une vie de strass et de paillettes, d'histoires d'amour et de trahison, de vie mondaine, de bien remplie. Voilà. Alors, on a vu que c'est super important parce que TF1 a voulu arrêter la diffusion des Feux de l'amour. Et ça a fait un tollé, mais un tollé général en France où il a fallu le remettre. Mais je crois que maintenant que c'est avant le JT et plus après. Donc voilà.
Et tu sais, puisque tu parles de tollé général, quand on a préparé cette émission, du coup, je me suis quand même un peu intéressée au feu de l'amour, même si j'ai honte de l'avouer. Et là, maintenant, pendant 15 jours, 3 semaines, sur la RTBF, ils ne diffusent plus les émissions, enfin, la série sur le temps de midi, parce qu'ils sont en train de refaire les doubles voix aux États-Unis, je ne sais pas trop quoi. Tu n'imagines pas le nombre de commentaires de gens qui hurlent. Non, mais vous ne vous rendez pas compte, vous supprimez l'effet de l'amour pendant nos vacances, mais qu'est-ce qu'on va faire? Genre, même là, aujourd'hui, maintenant, les gens ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas l'effet de l'amour à midi, quoi.
Et donc, ça fait peur quelque part parce que c'est mal joué, c'est mal doublé. C'est toujours les mêmes histoires. Donc, ce sont des riches, leur vie, leurs amours, leur coucherie, leur fourberie, et c'est dingue s'il y en a. Bref, ce n'est que du meneur. Et pourtant, Aurore, aujourd'hui, en Grande-Bretagne, la tendance s'inverse. On ne voit plus les riches à la télé. Et avec donc la tendance inverse, avec comme arme de destruction massive des cerveaux, là, c'est la
télé-réalité.
Tu peux révéler officiellement aux habitants ton secret personnel. C'est tout pour le moment.
En fait, la raison pour laquelle j'ai dit mon secret à Jonathan, c'est que j'ai craqué. Je n'en pouvais plus. Parce que mon secret, c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie profondément. La raison pour laquelle c'était difficile pour moi d'être ici, c'est que personne ne savait mon secret.
Parfois, je me dis que les gens vont se rendre compte de l'arnaque de la mondialisation et de la finance. Qu'ils vont faire la révolution. Et puis je me souviens que les gens regardent Hanouna.
Et voilà, malheureusement, tout est dit. Parfois, on espère que les gens vont se rendre compte des choses. Et là, non. On revient à la triste réalité. Les gens regardent Hanouna. Et Hanouna, c'est, quelque part, de la télé-réalité.
Voilà. Absolument.
On ne peut pas vraiment dire que c'est une émission avec du contenu, quand même. Hein. Et c'est un petit peu le
problème. Parfois, ça fait le tollé aussi. Hein, c'est...
Ah, mais tollé, oui, complètement. Bien mérité, d'ailleurs. Vu tous les désagréments et les débordements, surtout dans cette émission, que nous ne vous conseillons pas du tout. Et la télé-réalité, de toute façon, en fait, depuis le début, voilà, c'est quand même sujet à controverse. C'est surtout vers les années 2000, en tout cas, pour chez nous, quoi, un peu France-Belgique, que la télé-réalité est apparue. Et depuis, elle ne cesse de repousser ses limites. Et elle se donne en spectacle. Alors après, autant finalement les gens qui regardent que les gens qui participent, on ne sait même plus qui finalement est le spectateur dans l'histoire. Évidemment, les stéréotypes sont légion. Il y a la blonde qui est d'habitude un peu coconne, il y a le rebeu, il y a le tatoué, il y a le gay. Et évidemment, ils sont choisis parce qu'ils vont plaire au public cible. Mais finalement, on pourrait se demander, ils deviennent quoi ces gens après ?
Bah, certains deviennent des stars. Je sais pas, il n'y avait pas Loana là, à une époque.
Ouais, mais Loana, elle a aussi eu beaucoup, beaucoup de problèmes, de maladies, de suicides, plein de choses comme ça. Enfin, la télé-réalité, ça pousse aussi à ça, quoi. Les gens qui y participent, il y en a un paquet quand même qui ont soit mal tourné, soit mal fini. Et puis il y en a quelques-uns qui ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont fini tout court.
Et sinon, il y a Nabila qui, maintenant, joue dans la saison 5 de Orange is the New Black. Petite parenthèse, apparemment.
Donc elle est toujours...
Je crois qu'elle a vraiment réussi son coup, en fait. Je pense que c'est quelqu'un de super intelligent qui a bien réussi.
Allô, shampoing, c'est ça. Ouais. Comment c'était déjà
Non, mais allô, quoi, une fille sans shampoing, c'est comme une fille sans cheveux.
Ah ouais.
Je sais plus. Enfin, il y avait un truc comme ça, mais je crois qu'elle a vraiment bien réussi son coup.
Elle s'est...
Je crois que ça, c'est un cas à part. On pourrait faire une émission complète sur cette nana.
Elle a réussi à sortir son épingle du jeu.
Je pense.
Ouais. En tout cas, si elle avait été en Angleterre ou même aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pour être précise, la télévision va encore plus loin que chez nous. On se demande un peu comment c'est possible, mais c'est possible. Ils ont inventé le poverty porn, soit le porno de la pauvreté. Les deux mots, déjà, sont un petit peu suffisants, je crois.
On a des images qui viennent en tête, mais on n'a pas très envie de les voir.
On n'a pas très envie de les voir, et puis l'émission, tu n'aurais pas très envie de la voir non plus, parce qu'en fait, c'est comment stéréotyper les couches les plus précaires de la population et transformer la lutte des classes en spectacle. Donc c'est vraiment de la télé-réalité, des gens pauvres qu'on va mettre en lumière, mais pas vraiment pour essayer de les aider, plutôt pour les critiquer, plutôt pour voir comment c'est possible que ces pauvres personnes s'en sortent, comme si la vie de ces gens tellement anormaux pouvait et devait être mise en scène. Et en 2017, Déborah, ce qui est triste, c'est de se dire qu'on est encore là, finalement.
Oui, et ça va... En fait, ce qui fait un peu peur, c'est de se dire où est-ce que ça va s'arrêter. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais Hunger Games.
Oui.
Qui est aussi quand même un exemple type de dérive de la télé-réalité. Mais finalement, on se demande si un jour on n'y arriverait pas également. Donc Hunger Games, ce sont des gosses qui sont sélectionnés et qui vont se battre à mort. Il ne peut en rester qu'un, donc style la Battle Royale et d'autres films et bouquins du genre. Mais on se demande si à un moment, on ne va peut-être pas réellement y arriver, en fait.
Ce qui est un peu complètement dingue, d'arriver même à juste se poser la question.
Mais oui, mais c'est parce qu'il y a de moins en moins de limites. Ce serait facile, en fait, de faire se battre comme ça dans une arène des prisonniers, par exemple, pour éviter la surpopulation des prisons.
Oui, ou
des
non.
Réfugiés. Hein, pour éviter, voilà, c'est comme ça, en même temps, on règle le problème de la surpopulation des prisons et on satisfait les téléspectateurs et les citoyens. On leur bouffe encore des parts de cerveau.
Ouais, il va finir par plus en rester beaucoup, hein, surtout que...
Je vais finir ministre des médias, moi, je vous le dis.
Je pense que tu ferais du bien à beaucoup de monde. En 2014, toujours en Angleterre, il y a une série documentaire qui a été réalisée par Channel 4. Donc ceux qui connaissent un petit peu la télévision anglaise, quand on dit Channel 4, déjà on sait un peu vers où on va. Et cette chaîne emmenait les téléspectateurs dans un quartier de Birmingham, donc en Angleterre toujours, où près de 90% des habitants subsistent grâce aux allocations de l'État. Résultat, en quelques jours d'émission, les gens ont tous été catalogués de suite comme des profiteurs de la société et des voleurs. Les mots étaient cités tels quels après 3 jours de reportage. Maintenant, là, depuis un an, Channel 5, donc, qui ne s'est pas amélioré depuis Channel 4, va encore plus loin avec l'émission Great British Benefits Handout, ce qui est en fait focalisé sur 3 familles qui reçoivent 30 000 euros. Et on pourrait se dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces 30 000 euros et qu'on n'a pas notre mot à dire. Mais les téléspectateurs se permettent, eux, d'avoir un mot à dire. Tu as une famille, par exemple, qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent et qui dépense 2 000 euros, l'équivalent de 2 000 euros en livres sterling, dans des biens de consommation utiles, genre un lit, un frigo, enfin voilà, des choses qui sont essentielles. Et les téléspectateurs commentent l'émission ou envoient des messages ou participent après à des interviews. Ils disent que c'est honteux, que ces gens-là n'ont pas d'argent, que déjà on leur donne 30 000 euros et puis qu'avant de commencer, déjà ils se permettent de dépenser 2 000 euros pour des biens de consommation. Donc ça va jusque-là, les commentaires. Parce que les gens sont de base, entre guillemets, pauvres, on estime que c'est pas normal qu'ils s'achètent un lit ou un frigo.
Donc en fait, en gros, un pauvre doit rester pauvre et donner l'image du pauvre.
C'est exactement ça.
Et aurait dû garder cet argent-là pour le faire fructifier et le vivre dessus toute sa vie.
C'est ça. Et comme le disait notre super petite dame en tout début d'émission dans le jingle qu'on a posé, n'oublions pas qu'il faut que les riches soient là pour aider les pauvres. Sinon, comment ils feraient ces petites gens?
Est-ce que j'avais pas lu aussi, c'est possible ça, que ce soit dans cette même télé-réalité, où il y a une famille qui s'est vue retirer son logement, qui est un logement social, parce que comme ils avaient eu une grosse somme d'argent, ils dépassaient le seuil?
Exactement, donc ils ont été choisis par la production de l'émission, évidemment, comme toute personne de la télé-réalité, pour leurs caractéristiques particulières, en l'occurrence ici, malheureusement, de ne pas avoir beaucoup d'argent. Donc évidemment que c'était connu, c'était le but d'échanger justement des personnes de milieux différents.
Ah, ça c'est un autre...
C'est un deuxième, ouais.
D'accord, désolé, je croyais que c'était le même.
Mais c'est exactement le même système. Et donc effectivement, les gens considéraient que comme ces personnes-là, cette famille-là au départ était pauvre, ils n'avaient pas à avoir cet argent-là, et puisqu'ils l'avaient, du coup, ils n'avaient plus à bénéficier d'un logement social. Donc, ils se sont retrouvés avec de l'argent qu'ils ont dû rendre à la production et pas de logement. Voilà. Conclusion, tout était gagné.
Encore d'autres petites choses comme ça, amusantes
Amusante, je sais pas, non, mais toujours, toujours sur Channel 5, il y a une émission qui s'appelle Rich House Poor House, donc tout simplement le riche et le pauvre. Et en fait, l'émission oppose deux familles et leur font échanger leur quotidien. La première est présentée comme riche et découvre comment vivre avec 160 euros par mois au lieu des 2000 qu'ils dépensent ordinairement. Et au bout de quelques jours, la mère de famille se plaint d'avoir du mal en fait à se divertir sans avoir le budget nécessaire. Elle ne peut plus, comme avec ses 2000 euros habituels, aller au cinéma, faire des courses, se faire autant plaisir, du shopping, retrouver ses amis au restaurant. Et on voit qu'elle est consciente que ça lui pose un problème, mais la réflexion ne va pas vraiment plus loin. Par contre, toujours au niveau psychologique, là où enfin on attend une petite réaction, elle arrive, c'est la fille de 14 ans de cette famille qui avoue, c'est triste, hein, mais qu'elle n'a jamais réalisé à quel point elle était pauvre avant de voir quel effet cela faisait d'être riche. Tu te rends compte ?
Oui, c'est vraiment la télé-réalité poussée... à son point le plus nauséeux.
Ouais, nauséeux, et en plus de ça, c'est toujours à ces moments-là, évidemment, les pires, que les pics d'audience sont les plus impressionnants, que les podcasts après sont réécoutés et revisionnés, pour tous ces gros moments d'émotion qui font grimper les chiffres d'audience à leur maximum. Et finalement, ces émissions deviennent les plus regardées de la chaîne.
Bon, vous restez à l'écoute de Radio Esperanza 106.2 autour de Floref et sur les radios partenaires Radio Campus, Radio Panique, 48 FM, Run et UFM. Et on va se passer un petit morceau de musique, histoire d'essayer de digérer un peu tout ça.